Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous, bienvenue pour cet entretien. Je dirais plus qu'un entretien, ça va être même un voyage. Un voyage donc en compagnie de Philippe Claudel, qui vient d'arriver, William Ropp. Philippe Claudel, bien sûr, écrivain, mais pas que. William Ropp, photographe, mais pas que non plus. Et moi, je serai donc... Alors, on a marqué modérateur, mais je vais surtout ne rien modérer. Je pense que c'est un entretien à consommer sans modération. Et donc, je serai votre steward pour ce voyage. Et donc, je ne vais pas vous donner de consignes de sécurité, mais vous donner un peu ce qui va se passer, le dérouler. Donc, une présentation d'une rétrospective du travail de William Ropp, dont vous pouvez voir d'ailleurs les dernières photographies exposées dans le parc à l'entrée de l'espace court. Un travail, vous verrez, assez étonnant au vu de tout ce qu'on va découvrir de son œuvre. Et donc... on continuera par cet entretien et notamment par un ouvrage très spécifique qui s'appelle Utiopie, que vous pourrez acheter. Il y a 8 exemplaires collecteurs d'ailleurs qui sont à l'entrée du Magic Mirror. Et un très très beau travail lié à l'Éthiopie avec des textes de Philippe, un travail sensible, absolument magnifique.
Donc avec l'exposition qui a lieu au musée d'art moderne et ancien au MUDAC, donc de l'autre côté de la rivière, et dont le vernissage aura lieu tout à l'heure à 14h30.
Et bien sûr, on pourra échanger ensemble suite à ce voyage.
Voilà, donc je vais commencer par une... Je vais la faire rapidement parce que le but... Ah ben là, je ne vais pas pouvoir aller bien loin. Pardon. Il y a un nœud dans le bins. Voilà, ça y est. Donc, je vais vous faire une rapide rétrospective de mon travail qui a commencé il y a, j'ose plus le dire, mais il y a au moins 35 ans, avec, vous allez voir, avec des images issues du théâtre. Je viens du théâtre, je faisais de la mise en scène à l'époque. Et ça, tout a commencé avec un miroir. Et tout a commencé avec un diaporama qui ne part pas. Help. Ok. Écoutez, normalement, j'aime passer un peu de temps à décrire et à expliquer un petit peu toute cette démarche. Là, je vais vous la faire rapidement parce que j'aimerais surtout qu'on débatte avec Philippe qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Et donc voilà, donc je vais le faire assez rapidement. Très peu de commentaires. En fait, ce diaporama est découpé de façon un petit peu particulière. C'est rythmé par les livres en fait, qui ont été issus. C'est mon 10e livre photographique. Et donc, voici... ça, c'était une rétrospective qui a été faite lors de l'exposition à la Maison européenne pour la photographie, il y a quelques années. Et une exposition qui a tourné dans différents musées au travers l'Europe. Je m'amusais beaucoup à l'époque. En l'occurrence, ce sont des images qui sont réalisées avec une lampe de poche en pose longue de type 5-10 minutes dans le noir complet avec un modèle qui devait rester absolument immobile. La même chose en extérieur avec un homme fou dans la nuit qui danse avec une lampe de poche autour d'une femme nue et les bateaux qui s'approchaient dangereusement de la côte au risque de s'échouer. Donc la constante, c'est vraiment l'être humain, mon travail depuis plus de 35 ans. L'être humain me fascine, donc je dis toujours aux gens, photographiez ce qui vous fascine. Si c'est les trains, photographiez les trains. Moi, c'est les humains, donc je photographie des humains. En l'occurrence, une femme qui tient son portrait lorsqu'elle avait 18 ans. Et elle en avait 81. avec les chiffres qui s'inversent lorsque je l'ai rencontré. On sent l'influence du théâtre hein, sur mes débuts. Voilà, donc le premier livre. On continue avec un livre qui s'appelle Children. Je photographie les enfants. C'est vraiment le livre qui a eu le moins de succès. Je pense que les gens ont l'habitude de voir des enfants souriants et l'air rassurant. En l'occurrence, les miens ne le sont pas du tout, mais je ne leur demandais pas d'être inquiétant. Je leur demandais juste de me parler de leurs rêves. En l'occurrence, là, c'est dans un orphelinat en Russie. Et voilà une petite fille avec l'air très doux qui, tout d'un coup, devient quelque chose de très mystérieux pour moi. Voilà donc la couverture de Children. Mes premiers travaux en couleur, en l'occurrence en Norvège. Dans les villages roms, en Slovaquie. Là, je m'étais rendu dans un endroit où les enfants sont placés par le juge, non pas par désir d'avoir des enfants perturbés, mais au contraire, j'ai toujours considéré que les enfants qui n'avaient pas une vie parfaitement harmonieuse avaient tendance à se réfugier dans leurs rêves. Donc c'est des enfants qui m'intéressent, a priori. Là, ça peut faire le lien avec le festival, puisque j'ai fait cette photo et bizarrement, elle me rappelait cet auteur de BD qui s'appelle Anki Bilal. Et vraiment, j'avais l'impression d'avoir touché quelque part son univers. Et l'histoire est absolument réelle. Et quelques années plus tard, il s'agit donc de l'acteur Chicky Cario. Quelques années plus tard, Anki Bilal a repris ma photo et a dessiné dessus. Moi, je ne l'ai pas rencontré, c'est Chicky Cario qui a fait le lien. Et donc, bizarrement, mon impression... Voilà, et donc ça, c'est le livre Faces. Quelques publications au travers le monde, des premières pages de magazines dans des magazines d'art ou de photographie. Et travail en Afrique. Les gens me demandent si ce sont des portraits. Évidemment, ce sont des portraits qui sont négociés. Bien entendu, je m'adresse aux gens, considérant que c'est le minimum de respect que je puisse avoir pour eux, bien entendu. Mais ce qui ne les empêche pas d'être, le mot est un peu singulier, mais je dirais naturel. En tout cas, ils sont plongés aussi dans leurs rêves, et là, je ne leur parle même pas. Je considère qu'il s'agit d'un effet miroir. C'est-à-dire qu'en fait, le simple fait de les regarder, il y a un effet miroir. Je les regarde avec une telle intensité qu'ils me la rendent, en fait. Avec comme trait commun, on a parlé de ses rêves, et effectivement, c'était son rêve de voler. Comme trait commun, cette fusion entre l'homme africain et la nature, qui est un peu un point commun avec toutes ces images. Bon, je vous passerai les histoires, mais à chaque fois, il y a des histoires merveilleuses avec ce pêcheur, par exemple. Bon, ben, je vais vous la dire, parce que j'ai commencé. Il n'avait rien attrapé depuis 3 heures. J'ai dit à mon guide qu'il envoie son filet maintenant, et il a attrapé un poisson merveilleusement gros, qui lui a fait gagner sa journée. Et bon, voilà, j'étais un petit peu, je pense, un peu un sorcier pour lui. Sur les hauts plateaux en Éthiopie. Donc ça, c'est le livre Regards from Lucy. Un petit clin d'œil à cette petite femme découverte il y a quelques millions d'années et qui nous fait signe de son éternité. Ça, c'est les images qui sont montrées dans le parc. Donc, c'est une série que j'ai appelée African Nobles. Et quelques mots quand même pour vous expliquer. Ce n'est pas du tout gratuit. C'est juste que je regardais, pendant le confinement, je regardais des tableaux du 16e, 17e. Et je voyais ces nobles avec leur air arrogant. Et pas du tout nobles pour moi. Donc, je leur ai substitué mes Africains, leur visage en tout cas, et je les trouve, voilà, quand on voit ce personnage, pour moi, il match parfaitement avec ce costume, et je les trouvais beaucoup plus pertinents que dans ces costumes que ces soi-disant nobles. C'est singulier de voir justement, quand je les affuble de ces costumes, comment tout d'un coup, c'est vrai qu'ils sont un petit peu en haillons souvent, et tout d'un coup, il y a vraiment une noblesse qui se crée, une vraie noblesse. Et pour moi, ce petit garçon, tout d'un coup, bien, ça devient un personnage de cour. Et j'ai trouvé ce subterfuge assez, assez fantastique. Voilà, et là, on commence donc avec cet ouvrage réalisé avec Philippe Claudel, donc, et des textes qui se marient vraiment parfaitement. Alors, il semblerait que ce ne soit pas très lisible, donc je vais me faire un plaisir, Philippe connaissant mes talents d'acteur, de vous en donner de vous le lire tout simplement. Je vais mettre mes lunettes parce que même d'ici, je n'y arrive pas. Fille de toi, mère au sein sec. Jadis chaud de lait, ma mère, je suis là. Toi, la vieille semence, bientôt poussière, au parfum de salive, au corps creusé. Tes bras autour de mon ventre font un rond de lune. Et la nuit, au chaud de tes bras, hume ton haleine d'herbe. Je suis l'enfant rond, apaisé. Comme la lune, je bois la nuit et la salive du lait d'étoile. Ma mère, dans le creux de mon bras, ferme désormais. Pardon, il n'y a pas d'accent. Dans le creux de mon bras, fermé désormais. Toi qui m'as faite, toi jadis forte de vie. Tes yeux sont mes yeux. Tes jambes sont mes jambes. Ton cœur battant mon cœur. Je suis fille de toi. Et le serai encore longuement pour toi, ma mère. Ma mère au sein sec, qui se blottit dans ma mémoire. Ma mère au sein jadis chaud de lait. Alors, moi, j'adore parce que vraiment, tout d'un coup, ben, cette relation, effectivement, c'est une fille et sa mère. Je ne sais même pas si Philippe le savait, d'ailleurs. Et je trouve que ça donne un sens absolument magique à cette image. Enfin, voilà, ça lui donne une perception totalement différente. Et voilà, je trouve ce mariage parfaitement réussi entre l'écrivain et le photographe. Je ne résiste pas au plaisir de vous dire celui-ci. Ah, pardon. Le jour éteint comme la mèche d'une chandelle entre les doigts, montent les ombres, les plaintes faibles des agneaux, le jour retiré comme l'huile dans la lampe pour qu'elle dure encore. Le lendemain et le lendemain du lendemain vient l'instant des songes, du brouillard et du sable. S'apprête à courir là où le monde naît, sur l'arête des vagues. Cheval recommencé, toujours entre l'aube et le soir. Sous les cuisses jeunes frémit l'échine, de sueur, de poils, d'odeur pleine. Je suis monture idéale de sel, de nuages et de terre. Tu es l'enfant céleste, corps croupe à demi animal. Nous irons sereins, soudés, sans jamais arrêter. Alors que le tendre, le rond, le doux, rien que chaleur, petit cri de rongeur, plainte mouillée, larmes, bave, rire, yeux grands ouverts, le doux, le rond, le tendre alors, et les mains qui battent l'air, s'accrochent aux yeux, aux lèvres, aux vêtements, s'accrochent sur le vide, le monde, là, seul, rond, tendre et doux. Je suis le corps exhumé, je suis l'ancêtre, je suis l'homme, j'habite les matins, je suis la semence du monde, je veille, je suis le corps dressé, le membre fort, je suis la peau tendue sur l'os, je suis la saillie, je suis le père, je suis l'œil ouvert, je suis l'âme, je suis celui qui sait, et se soucie, je suis vos tombes constantes. Au matin, je fais toc-toc, j'entre dans mon crâne, je me cache à l'intérieur de moi et je dessine ce que j'y trouve. Mon corps fait semblant d'être là, mon esprit est avec les figures, les oiseaux et les ciels. Je les regarde, je leur parle, je les écoute, je les peins. Le soir, clac-clac, je sors de mon crâne, je le ferme à double tour, je reviens dans mon lit et m'endors comme les enfants le font. Voilà, avec donc la couverture du livre. Et c'est terminé pour cette petite rétrospective. Merci.
Merci.
Donc vous aurez noté la spécificité de ce livre Utiopie, qui nous montre l'Éthiopie. Et l'Éthiopie, c'est quand même le berceau de l'humanité, et je pense qu'on a tous fantasmé sur ce nom, si on s'intéresse un peu à l'histoire, aussi à une actualité malheureusement récente, puisque c'est aussi un pays en difficulté. Mais pour revenir sur ce berceau de l'humanité, ces visages, d'ailleurs, j'ai lu que Éthiopie venait de visage brûlé, c'est-à-dire l'étymologie d'Éthiopie. Merci Wikipédia, je ne suis pas d'une culture aussi immense. Et ces visages, forcément, nous touchent aussi parce qu'on a imaginé l'Éthiopie. Et donc, quand je vois un livre comme ça, notamment par votre rencontre, je me questionne toujours à savoir pourquoi ce livre, c'est-à-dire, et comment ce livre a pu se faire. Et bien sûr, la part d'émotion qui a permis à ce livre d'être réalisé.
Moi, je connaissais, j'admirais le travail de William depuis de nombreuses années, et pratiquement depuis ses débuts, depuis que j'avais vu les premiers clichés, on en a vu tout à l'heure. J'avais aussi ses livres. J'avais vu l'exposition dont tu as parlé, cette rétrospective à la MEP, à Paris, et c'est vrai que habitant la même ville, c'est toujours curieux de connaître le trajet artistique de quelqu'un sans l'avoir jamais rencontré. Enfin, je voyais physiquement qui était William, je le croisais des fois dans la rue, on avait des amis communs, mais on ne s'était encore jamais ni parlé ni rencontré avant quelques années. Et puis par le biais d'un ami, ça a été chose faite, et on s'est découvert à la fois beaucoup de points communs dans le domaine artistique, mais dans le domaine aussi humain. Enfin, voilà, on s'entendait bien ensemble. Et l'idée est née un jour de faire un livre. Moi, j'en avais déjà fait plusieurs avec des photographes, en partant toujours, alors que ce soit Richard Bateau, Jean-Michel Marchetti, Karl de Kaiser, Laure Vasconi et d'autres, français et étrangers. Et en partant toujours du même principe, c'est-à-dire qu'il n'est pas question d'illustrer des photographies. Il n'est pas question de faire des textes sur des photographies, mais essayer de composer un livre commun, c'est-à-dire que où il y a un vrai dialogue entre l'image et le texte, et où quelque part le but ultime, c'est qu'elle ne puisse pas, ou il ne puisse pas exister l'un sans l'autre, en tout cas qu'ils s'enrichissent de façon considérable. Et William l'a précisé d'emblée, son sujet principal et unique est l'être humain, et c'est ce qui nous rapproche aussi, puisque finalement moi tout ce que j'écris n'est qu'une longue quête, enquête, recherche sur le mystère humain, sur la façon dont nous fonctionnons intimement ou sur le plan social et la façon dont nos vies peuvent se dérouler. C'est, je crois, ce qui m'avait d'emblée touché chez William. J'ajouterais aussi que ce qui m'intéresse beaucoup dans son travail, c'est pas seulement la prise de vue qu'il peut faire au moment où il l'a fait, où d'ailleurs je n'ai jamais été présent, sauf quand... tu t'es amusé à faire un portrait de moi, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est la façon dont, pour employer un mot qui n'est pas très joli, mais dont il post-produit ces images. C'est-à-dire, il y a le geste de la prise de vue, mais ensuite, après, il y a tout un travail artistique aussi qui consiste à amener le portrait, ou en tout cas l'être humain photographié, là où il veut l'emmener. Et ça... Selon les périodes de la vie de William et de son travail, on a une sorte de voyage ou de dérive très très heureuse qui aboutit à ce qu'on voit, c'est-à-dire des œuvres qui sont pour moi à mi-chemin entre la photographie et la peinture. Hein. non seulement parfois parce que la mise en scène qui est faite évoque, de façon consciente ou inconsciente, on en a déjà parlé ensemble, des peintures, et souvent des peintures classiques ou des gravures, mais il y a aussi tout le travail qui est fait après, poussé à l'extrême dans ce que tu viens de présenter comme étant tes derniers travaux, avec cette réutilisation de tableaux classiques, mais en substituant au visage des visages photographiés en Afrique. Mais il y a vraiment un travail à la fois sur la matière, sur l'ornement, sur l'histoire de l'art aussi, et quelque chose qui donne une œuvre médiane qui n'est plus tout à fait de la photographie, qui n'est pas tout à fait de la peinture, mais qui est une sorte de troisième voie. Et là encore, le geste n'est pas du tout gratuit, parce que en travaillant ainsi, je trouve que justement, ce sujet principal qu'est l'être humain, eh bien, on le ressent, on l'approche, on entre en lui de façon encore plus profonde. Ce qui fait que les textes ont été assez simples à écrire. Il me suffisait de voyager dans les images et de reconstituer un petit peu avec des mots ce que je sentais être dégagé par ces personnages. Et bien entendu, il s'agit d'une rêverie poétique, il ne s'agit pas de récit réaliste. Mais, et je terminerai pour ne pas être trop long, spécifiquement sur le travail d'Utiopic, avec ses photographies réalisées la plupart sur les hauts plateaux d'Éthiopie. Ce qui m'intéressait énormément aussi, ce qui se ressent dans les textes, je crois, c'est que j'avais l'impression que William avait fait aussi un voyage, non pas géographique, mais un voyage dans le temps. Et que ces êtres humains, ces enfants, ces femmes, ces vieillards photographiés, nous ramenaient au tout début de l'humanité, au tout début de quelque chose, à la fois dans leur nudité, dans leur peu d'ornement, dans les activités auxquelles ils se livrent, d'ailleurs, hein, des activités simples de chasse, de pêche, de pastoralisme, donc on est vraiment d'agriculture sommaire, on est au tout début de quelque chose qui commence à avoir lieu. Et nous, nous sommes à l'autre bout quand tout se dégrade et quand tout se casse la figure. Et il y avait cette rencontre, enfin ces rencontres, entre une sorte de fin des temps et de naissance des temps humains que je trouvais tout à fait spectaculaire et poignante dans le travail de William.
Non, mais j'ai vraiment ce sentiment, parfois très fort, lorsque je me suis rendu en Éthiopie, parce que j'y suis allé à trois reprises. En fait, j'ai fait trois fois trois voyages en Afrique. Alors, une espèce de trinité comme ça, singulière. J'essaie d'organiser un quatrième voyage en Éthiopie, et pour des raisons multiples, diverses et variées, je n'y parviens pas. Comme si le chiffre 3, je ne pouvais pas le dépasser. Bon. Mais j'ai vraiment ce sentiment parfois en Éthiopie. Alors, je me souviens notamment d'une image. Nous allions vers la frontière soudanaise, du Sud-Soudan. Et tout d'un coup, après 10 heures de piste, tout d'un coup, un petit enfant nu, posé sur un rocher. Et là, tout d'un coup, mais vraiment un sentiment presque oppressant de se retrouver dans un autre monde. C'était vraiment très, 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 très singulier et très fort. Et tout d'un coup, on s'arrête, parce que ce petit garçon, j'ai eu envie de le photographier. D'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas photographié. Et tout d'un coup, des gens qui arrivent, avec des, ils ont souvent des mitraillettes avec eux. Et en fait, elles ne sont pas forcément chargées. Elles le sont aussi, malheureusement, puisque dans le village dans lequel nous nous sommes rendus, la veille, il y a trois Soudanais qui se sont fait tirer dessus parce qu'ils ont essayé de voler du bétail. Il faut savoir qu'une vache, c'est un an de salaire, donc on ne vole pas une vache à un paysan éthiopien. Et donc tout d'un coup, ces hommes qui arrivent vers vous avec vraiment un sentiment indescriptible d'être déraciné, d'être projeté dans le temps, d'être projeté dans un autre univers, dans un autre espace-temps. Mais vraiment, mais très fort, très très fort. Et puis, effectivement, dans ce village, ben, ils avaient vu, en un an, ils voyaient en gros 10 blancs. Pour faire simple, hein. Donc 10 Européens, on va dire, ou Américains, qu'importe, enfin bon, 10 Blancs, on va dire. Pour... Et donc un regard, bah, aussi avec l'appareil photographique, un regard complètement, j'allais dire, vierge. Pas du tout, ils ne se sentent ni agressés, ni, on va pas dire qu'ils ne savent pas, il ne faut pas exagérer, mais ils n'ont aucune communication avec l'extérieur, il n'y a pas de téléphone, il n'y a absolument rien du tout. Et c'est vraiment, comme disait Philippe, un retour, un flashback incroyable. J'allais dire le Moyen-Âge, mais après, il n'y a plus tellement d'époque, mais j'imagine si je fais un parallèle avec nous, on serait vraiment presque au début du Moyen-Âge, avec rien, bien sûr, les outils, bien entendu, le feu, bien entendu, mais vraiment, vraiment pas grand-chose. C'est vraiment un sentiment absolument indescriptible. Ce que je vous ai dit, c'est ce que je ressens, mais ça va bien au-delà. Ça va vraiment, vraiment bien au-delà.
Non, c'est vrai que sur ces photos, William, tu as su, par la lumière en particulier, proposer une image hors temps. on ne peut pas la qualifier. Elle nous renvoie par un côté fantasmé, je pense, au passé et aux origines de l'humanité. Ce sont nous, ces photos nous représentent. Et elles sont d'une extrême actualité. Elles rappellent que notre bien commun, c'est déjà l'humanité. Et donc cet effet, je trouve, est absolument amplifié par les textes de Philippe. Et d'ailleurs, je t'avais questionné en disant, mais est-ce qu'on pourrait imaginer que tes textes prennent une indépendance et que ces textes puissent être lus en dehors de la photo? Et tu m'avais répondu, non, c'est un lien étroit. Mais par ce côté référentiel origine, je trouve qu'il y a une certaine indépendance qui est prise par cette force qui est proposée.
Oui, si je puis me permettre de répondre en quelques mots, c'est un petit peu comme un vêtement, par exemple, sur lequel on aurait pris du soin à travailler, un vêtement de haute couture, disons. On peut toujours l'exposer sur un mannequin dans un musée, mais il prend sa pleine valeur et sa pleine puissance lorsqu'il est porté par quelqu'un. Donc le texte et photo, c'est un peu la même chose. C'est sûr, on peut prendre les textes à part, mais ce sera comme un vêtement sur un cintre. Alors ça peut être joli, mais en même temps, c'est pas incarné.
Mais je voudrais juste reprendre un mot tu as prononcé tout à l'heure. Pour moi, c'est important, c'est la lumière. Évidemment, la photographie, c'est la lumière. Et pour photographier ces gens, j'ai une lumière d'une extrême simplicité, un petit peu comme eux, à leur image. Il y a des gens qui viennent avec des flashs, des équipements, des trucs. Moi, j'ai rien, si ce n'est un réflecteur. J'utilise la lumière naturelle. Alors, ce n'est pas facile, parce qu'en Afrique, le soleil tape, un peu comme ici aujourd'hui. Et c'est une lumière très dure. Donc, j'ai trouvé comme moyen de les faire pénétrer à l'intérieur de leur case tout au début. La lumière vient taper au sol, il y a une réflexion et juste un réflecteur blanc qui vient remodeler un petit peu le visage. Et voilà, c'est d'une simplicité totale à l'image de ces gens. Et je pense que voilà, ça restitue vraiment ce que je ressens. Et ce que je ressens est parfois violent. Alors, encore une fois, il n'y a pas de... Quand je dis violent, c'est dans l'émotion, hein, bien entendu. Bien entendu, il n'y a pas d'échange au niveau du langage, parce que nous ne parlons pas la même langue. Parfois, il y a des échanges au niveau du regard qui sont d'une intensité telle qu'il peut m'arriver de vraiment dégouliner comme ça, parce qu'un prêtre me regarde, qui ne me lâche pas du regard. On ne sait pas ce qui se passe. Je vais vous raconter une anecdote. Je pars avec des gens. Je parle à un prêtre, un autre, et je lui parle de son engagement avec Dieu. Je lui en parle avec sincérité, d'une part, et avec profondeur, parce que ça m'intéresse déjà. Voilà. Et je lui demande de fermer les yeux, de penser à voilà, sa relation avec Dieu. Et à un moment, je lui demande d'ouvrir ses yeux et je fais le portrait. Il y a une belle intensité parce qu'il est profondément ancré dans ses pensées. Et la personne qui m'accompagne, on part toujours à deux ou trois, je m'efface. Et il emploie les mots que j'emploie. Il lui demande de penser à Dieu. Et là, le prêtre éclate de rire. À la grande déception de la personne qui m'accompagne. Mais tout simplement pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas mis l'intensité, il n'avait pas mis l'intention. Et du coup, ben, ça ne fonctionnait pas. Voilà. Donc je pense que tout ça pour vous dire que j'y vais, et j'y vais avec sincérité. Je ne vais pas dire pour m'amuser, parce que rien n'est vraiment très sérieux. Mais en même temps, j'y vais avec une vraie conviction et quelque chose de profondément, un profond intérêt pour eux, pour l'être humain et pour eux. Voilà.
Dans Utopie, on a bien sûr l'humanité, les visages, la lumière sur le visage, mais on a aussi un territoire. Dans le travail de William, on va dire les photos entre guillemets de paysages sont rares, et dans Utopie on a un certain nombre de photos qui montrent un paysage, voire un singe dans un paysage, et qui sont très fortes et avec une sorte à la fois c'est dématérialisé, c'est-à-dire on a un côté très abstrait et on a un côté extrêmement réel, c'est-à-dire quelque chose qui combine deux éléments opposés et qui crée bien sûr pour moi une très grande émotion.
Alors, ce n'est pas une question que tu me poses là, mais c'est vrai. Alors, ça, c'est pour tout vous avouer, c'était une demande de mon éditeur qui me disait, à force d'asséner des visages comme ça, qui sont assez forts, ça, les gens vont suffoquer. Donc, on va faire des ponctuations avec des portraits. Donc, je me suis un petit peu forcé à faire des portraits. C'est vrai que, de temps en temps, j'y glisse un petit personnage parce que, voilà, encore une fois, c'est l'être humain qui m'interpelle, qui me plaît, qui m'intéresse, dont j'ai envie de parler. Voilà, c'est mon sujet.
Alors, question à Philippe sur le territoire.
Oui, mais moi, je suis sensible à ce que tu viens de dire, Alain, dans les photos. C'est-à-dire que, certes, il y a l'être humain, on en a déjà parlé. Mais dans ce travail, là, dans ce livre, le paysage, il est constamment présent. Et sinon, le paysage, du moins les éléments aussi. La terre, l'eau, le feu qu'on devine, ou la chaleur, le bois, enfin des céréales sèches. Et puis le paysage remodelé par l'humain, des murets, des enclos. Donc on a comme ça un espace qui se met en place. Et c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est-à-dire que même si ce n'est pas le sujet principal, dans le livre, on a aussi une géographie qui se dessine. Et une géographie, c'est à la fois une géographie physique et une géographie humaine, comme on l'apprenait au lycée. Et de façon indirecte et assez subtile, et j'allais dire harmonieusement décidée, pour répondre à l'injonction de l'éditeur, peut-être dont parlait William, mais le paysage traverse le livre. Ce qui fait que le spectateur-lecteur qui parcourt ce livre-là fait bien sûr un voyage humain, mais également un voyage spatial et permet de voir aussi un voyage qui permet de voir aussi le lien que ces femmes, ces hommes, ces enfants peuvent entretenir avec la terre sur laquelle ils habitent, quoi, et qui est une terre quand même âpre, rude, avec un climat, on est sur des hauts plateaux, enfin il fait chaud, il fait très froid, enfin il y a un peu de tout. C'est pas forcément la meilleure des terres arables non plus, ni fertiles. Donc on a aussi la rugosité de la vie qui se dessine, des conditions de vie, des conditions de survie, d'existence. Et quand on se penche sur les photographies, on lit tout ça. C'est pour ça que c'est très très intéressant. C'est-à-dire que on connaît tous des je prends un exemple. Moi j'adore feuilleter des revues de mode féminine. Vogue ou autre, pour n'en citer qu'une, où de très grands photographes de mode travaillent pour des créateurs. Les photographies, elles sont toujours d'une extrême qualité, extrêmement esthétique, mais il n'y a rien. Enfin, rien ne se dégage, sinon voilà, la mise en valeur du vêtement par le modèle. Et puis là, finalement, la mise en scène, parfois, fait un petit clin d'œil à certains films, certaines œuvres artistiques où sont prises dans des architectures formidables, mais ça ne va pas plus loin. C'est-à-dire que vous aurez beau rester des heures devant la photographie, il ne s'en dégagera pas plus que ce que je viens de dire. Donc on va louer la qualité, j'allais dire technique, de là ou du photographe, mais ça ne va pas plus loin. Alors que quand on regarde les photographies de William, notamment dans ce travail, eh bien, on a différentes approches. C'est-à-dire qu'on voit dans un premier temps certaines choses. Ensuite, si on les reprend, d'autres choses. Et puis, si, selon l'ordre aussi avec lequel on va les inspecter ou les traverser, eh bien, le voyage va être aussi différent. Et c'est ça qui me plaît. C'est-à-dire que cette espèce, c'est comme dans un texte littéraire. Hein, vous avez des textes qui ne disent que ce qu'ils disent, et puis d'autres, au contraire, qui contiennent des sous-couches comme ça et qui nécessitent plusieurs lectures ou plusieurs interprétations. Et c'est ce qui en fait, justement, de la littérature. Donc là, on est, me semble-t-il, dans ce qu'on pourrait appeler de la photographie.
Et je crois que dans ces images qui montrent le territoire, ça introduit une donnée qu'il faut, pour la comprendre, il faut bien regarder les photos de William, mais c'est une donnée importante aussi dans l'art, c'est de la rythmicité. Et la rythmicité en musique, c'est simple. En littérature, je pense que ça peut l'être aussi, c'est un des éléments importants du plaisir de lire. En photo, c'est bien plus compliqué. Et ces photos de territoire nous amènent, comme tu l'as décompté, d'ailleurs, comme tu viens de les montrer, dans une rythmicité de discours, par les objets montrés, par la profondeur de champ, par l'élément fermé et par les multiples possibilités. On voit une chose, on en voit une deuxième, on en voit une troisième, et une qui est plus près. Et ça, c'est un travail qui est très présent, je trouve, dans ces photos de territoire d'Éthiopie.
J'essaye effectivement d'avoir des images qui peuvent déclencher la rêverie. Effectivement, une image qui ne va pas se lire d'un seul coup. Je pourrais les comparer, moi, d'un point de vue photographique. Toi, tu parlais d'images de mode, Philippe. Moi, je parlerais des images de géo, qui sont des images très belles, souvent très belles, souvent pleines de couleurs, et souvent, il y a une espèce de voile, comme ça, enfin, de beauté, qui nous empêche de pénétrer l'image, qui fait que c'est juste beau, un peu comme une belle femme pas très intelligente, si je pouvais comparer ces images.
Un bel homme.
Oui, c'est marrant, pourquoi j'ai dit une femme. On va dire, alors, un être humain, juste joli et pas très intelligent. C'est malin ce que tu viens de faire là. Là, tu m'embarrasses énormément. Là. Merci infiniment.
Je vais modérer.
Donc voilà. Donc j'essaie d'échapper à ça. Et même, merci Philippe. Et même avec la couleur, alors vous en avez aperçu quelques-unes. En fait, mes images couleurs sont très monochromes. Il y a une, deux couleurs. Justement pour éviter ce piège de l'esthétisme qui fait qu'on s'arrête à la beauté, comme chez certains êtres humains.
Et sur cette complexité de prendre, de voir la photo, c'est vrai que je trouve que les textes multiplient les possibles. Je pense à un texte en particulier, un jeune homme devant un arbre très très gros, et sur la gauche, une perspective avec un cheval. Et le texte se fixe principalement sur la nature du bois et de l'écorce, et sur la partie qui apparemment ne propose pas de profondeur. Et donc, bien sûr, quand on regarde cette photo, je pense, on voit aussi la profondeur et le cheval. Et quand on lit le texte, on dit non, mais tout est dans la concentration de ce personnage sur une face en bois très fixe, très stable et très profonde.
Oui, mais c'est ce qui est, encore une fois, je vais peut-être me répéter, mais c'est ce qui est intéressant dans les œuvres riches, c'est-à-dire qu'on y voit ce qu'on veut bien y voir. On y voit aussi ce qui nous correspond, ce qui correspond à des peurs, à des désirs, à des rêves, à des lignes qu'on a en nous, enfin celui qui porte son regard. Et c'est ce qui est très intéressant dans la photographie. La photographie, si elle ne représente que ce qu'elle prend en photo, n'a pas grand intérêt. Mais il faut qu'il y ait entre la photographie et l'œil qui se pose dessus. On pourrait dire la même chose avec la peinture, mais la photographie plus encore, parce que elle joue quand même sur une illusion de représentation du réel, une espèce de réalisme, alors que rien n'est réaliste. Enfin, le réel n'existe pas, et c'est juste une sorte d'accord qui se pose entre un œil et un objet qui a photographié un morceau du monde ou une partie d'un corps. Et soudain, il peut y avoir, avec certaines œuvres, et dans ce sens-là, elles sont, pour moi, artistiques, une forme de vibration qui se passe et qui va opérer une sorte d'opération chimique, de cristallisation à l'intérieur de l'âme de la spectatrice ou du spectateur. Et soudain, un pont va être vraiment jeté entre l'image et l'être. En dehors de la présence d'ailleurs du photographe, de la photographe, elle peut être, ou il peut être mort depuis longtemps, peu importe, mais son œuvre est là toujours qui va provoquer quelque chose. Et cette provocation, c'est ça, c'est une provocation à construire en nous des histoires, des rêveries, des craintes, des peurs. Et parfois, là où le photographe, l'artiste, serait extrêmement surpris de ce qui se passe en nous. Et alors, il se trouve que là, des textes ont été écrits, mais chacun peut en faire autant, hein, les écrire lui-même ou elle-même, les penser, les imaginer. Moi, je me souviens d'un autre travail que j'avais fait avec un photographe flamand que je viens de citer tout à l'heure, là, Karl de Keyser. Il m'avait envoyé toute une série, il a fait toute une grande série sur les rivages, et puis après, il a fait toute une grande série sur les lieux d'altitude, les lieux élevés. Et puis, il m'avait envoyé toute une série. Et en fait, moi, j'ai fait une série de textes post-apocalyptique que j'ai appelé Ararat, comme le mont Ararat, vous savez, où s'était échouée l'arche de Noé, parce que ces images, voilà, me provoquaient ça en moi, alors que chez quelqu'un d'autre, ça aurait été tout à fait autre chose, et je pense qu'il a été étonné que j'aille dans cette direction-là. Mais l'œuvre est telle, enfin, les œuvres riches sont telles qu'elles peuvent, comme une sorte d'arborescence, provoquer mille et une rêveries et mille et un textes. Et c'est ça qui est fascinant. Dans ce travail, Pour moi, en plus, qui ne connais absolument pas l'Éthiopie, à l'inverse de William, hein, je n'y suis jamais allé.
Je ne voulais pas y aller, d'ailleurs.
Oui, quand William m'a proposé qu'on fasse un voyage ensemble, moi, je n'avais pas envie de voyager avec lui.
Hein.
Non, je plaisante, mais non, moi, souvent, je crois que je te l'ai dit, et puis je l'ai dit aussi à d'autres personnes avec lesquelles j'ai travaillé, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de voir avec toi ou avec d'autres ce que vous allez photographier, mais vraiment de me contenter de ce que vous avez photographié, du travail qui a été fait, du résultat. Et c'est sur ça que moi, je vais écrire, et pas sur autre chose. Donc, c'est vrai que voilà, il y a une méconnaissance totale de ma part de l'Éthiopie, du continent noir africain même en général. Je ne connais de l'Afrique que la partie d'extrême nord, les pays du Maghreb. Mais cette Afrique noire demeure un mystère. Et c'est aussi ce qui m'intéressait finalement dans ces photographies. C'est-à-dire les prendre avec l'œil d'un candide, d'un ignorant, et entrer aussi dans mon propre imaginaire de l'Afrique, hein, qui était revivifié par le travail de William.
Alors William, j'ai une question particulière pour toi.
Ouais, tu me fais peur.
On a dans le livre Utopie un écrivain magnifique qui écrit sur tes photos. Est-ce que tu pourrais faire des photos sur un texte, c'est-à-dire qu'on inverse la proposition, ou au-delà de ça, quelle a été l'influence de la littérature dans ton travail ?
C'est marrant parce qu'en fait, on avait un projet avec Philippe. Alors, on ne l'avait pas fini de l'articuler. J'avais commencé à faire des photos d'anciens légionnaires retirés, retired. The English word is coming, I'm so sorry. à la retraite, donc. Et bon, malheureusement, avec le Covid qui est arrivé, on craint qu'ils soient tous décédés, donc le projet a dû s'arrêter. Non, je rigole. C'est le mur noir. Enfin, en tout cas, on n'a pas pu se rendre dans ces lieux, bien entendu. Mais effectivement, là, ça aurait peut-être pu déboucher sur quelque chose comme ça, où peut-être Philippe aurait écrit un texte et j'aurais pu faire une image en écho à ce texte-là. Ça aurait été effectivement une expérience intéressante.
Mais c'était encore pas tout à fait, je pense, ce à quoi Alain fait allusion, parce que c'est vrai que donc William m'avait montré quelques photographies de légionnaires retraités qui vivent dans un lieu qui est une maison de retraite très particulière à Puy-Loubier, dans le sud de la France, qui est la maison de retraite de la Légion. Donc les légionnaires qui n'ont pas de famille, qui le souhaitent, peuvent être accueillis dans cet établissement. Pour parler quelques secondes de la Légion, c'est un corps de l'armée, comme vous le connaissez, constitué beaucoup par des étrangers qui s'engagent, mais pas seulement, et où règne une très très grande solidarité. C'est-à-dire qu'on ne laisse jamais tomber un légionnaire, à la fois sur le champ de bataille, mais aussi après sa période d'activité. Et donc il y a une très très grande solidarité de la Légion. Il y a beaucoup de jeunes légionnaires qui viennent aider ces pensionnaires, qui viennent les aider dans des tâches agricoles, parce qu'il y a une petite vigne aussi. Et puis, bon, William avait fait des portraits qui étaient saisissants. C'est-à-dire qu'en voyant ces visages, j'allais dire ces gueules, parce que c'est vraiment des gueules, on a déjà une sorte de beauté qui nous renvoie presque à des portraits tourmentés et baroques du siècle d'or espagnol. Enfin, il y a des, on est parfois chez Velázquez, on est parfois chez Greco. Enfin, c'est quelque chose, ou chez Ribera, il y a quelque chose, ou Murillo, c'est très puissant. Mais en même temps, on lit leur vie, quoi. Enfin, on lit tout ce que leur existence a pu charrier, sans doute, de souffrances, de drames, de conflits, de blessures. Et l'idée avec William, c'était d'y aller ensemble, cette fois-ci, que William les photographie, que moi je parle avec eux, que je récolte en quelque sorte leurs mots, que je les filme aussi en même temps, parce que l'idée était de faire à la fois un livre ensemble, photographie, texte, et aussi un documentaire sur ces légionnaires retraités. Voilà, donc on était dans cette perspective quand la Covid est arrivée. Et bien entendu, cet établissement est considéré comme un EHPAD. Donc le responsable m'a dit, bah, pour l'instant, on ne peut pas vous accueillir. Donc on attend, on espère que ça va pouvoir se faire un jour. Mais pour répondre à la question d'Alain, oui, ce serait une expérience intéressante à la fois d'avoir des textes et de voir cette fois-ci comment William se les accapare et quelle photographie pourrait naître aussi des textes. Oui, mais ça, on n'y a pas pensé encore.
Non. tout cas, ça serait une vraie gageure, parce que ce n'est pas du tout mon mode de fonctionnement. Mais j'y crois. J'en veux pour preuve qu'un jour, quelqu'un me téléphone et me dise « Je fais une exposition sur la pomme de terre. » Alors franchement, c'est la chose la plus... Je pense que les textes de Philippe seraient bien entendu beaucoup plus inspirants. Mais j'ai réussi à le faire. J'ai réussi à faire une image qui m'a paru plutôt sympathique, alors qu'au départ, ce n'était pas vraiment quelque chose qui m'inspirait. Donc encore une fois, les textes de Philippe m'inspirant, ça pourrait être une expérience vraiment intéressante.
Ma question était liée aussi au fait que Philippe, tu es réalisateur de cinéma. Et le process, c'est quand même d'écrire avant l'image dans le cinéma.
Oui, mais l'écriture avant l'image en cinéma, c'est une écriture éphémère, puisqu'en fait, c'est une écriture qui n'apparaîtra jamais dans l'œuvre finale, sauf bien sûr quand il s'agit des dialogues. Hein. Mais sinon, on est dans une forme d'écriture qui est scénaristique et qui a pour objet de disparaître et de laisser apparaître l'image comme dans un processus de développement. Quoi, hein. Quand on est devant ces bacs et qu'on développait en argentique, soudain quelque chose apparaissait. Ce qu'il y a dans le bac, le produit, on le met à la poubelle, enfin c'est recyclé et il ne reste que finalement l'image imprimée. Donc le texte en cinéma, c'est la même chose. Quoi. Il ne reste rien de ce qui a été écrit. Et c'est ça qui est assez joli d'ailleurs. Alors maintenant, on se met de plus en plus à publier des scénarios pour montrer à quoi ça peut ressembler. Et puis, on pourrait dire aussi qu'il y a de plus en plus de romans qui ressemblent à des scénarios dans leur construction, dans leur mécanique, et j'allais dire aussi dans leur pauvreté, de style, parce que un scénario, ça doit être stylistiquement très pauvre. Hein. On n'est pas là pour faire de la littérature, on est là pour être efficace, pour montrer à toute une équipe ce qui va avoir lieu ou ce qu'on désire. Mais malheureusement, maintenant, on trouve qu'il y a un certain nombre de romans. Je suis bien placé pour le subir, puisque en tant que membre de l'Académie Goncourt, on lit énormément de littérature contemporaine. Et de plus en plus, on a cette influence du scénario, et j'allais dire aussi du scénario de série. Qui vient percuter un petit peu la création des romancières et des romanciers.
William, peut-être avant des questions du public, tu peux peut-être dire un mot et puis après on fait un échange avec tous les gnomes présents dans la salle.
Les trolls. Non, je voulais juste faire un parallèle qui m'est venu à l'esprit quand on a parlé d'images et d'imaginaire. Ça me faisait penser à certains films que l'on peut voir qui sont des films d'action qui sont plutôt agréables à regarder, et quand on les met en vis-à-vis avec des films comme je sais pas, des films de Wim Wenders par exemple, qui sont vraiment ce qu'on appelle pour moi des films qui laissent une place au spectateur, alors que les films d'action, vous n'avez pas de place, vous êtes juste là pour subir des actions qui s'enchaînent. Et dans un film de Wenders par exemple, on vous laisse une place, on vous laisse une place pour le rêve, on vous laisse une place pour pénétrer le film et pour faire partie quelque part du film. Si mes images peuvent atteindre ce but, j'en serais ravi, voilà, en guise de conclusion. Et je vous en prie, si vous avez des questions, n'hésitez pas, même en anglais.
Donc c'est à vous.
Si j'ai des copains anglais qui sont...
Profitez de...
Even in English.
Even in English.
If you have any questions... Oui, monsieur. Je vous en parle très bien, mais j'ai cru comprendre si les Éthiopiens pouvaient voir mon travail.
Oui, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Voilà, c'est ça.
Alors, je leur montre sur l'écran de l'appareil photo. C'est malheureusement très compliqué. Hein. Eh non, mais mon rêve, ça serait de les inviter ici à un vernissage. Alors là, ça serait vraiment génial. Bon, il y a un énorme décalage, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. Juste un petit mot sur ces gens qui sont encore une fois très nobles. Et le regard singulier de l'Européen qui va débarquer en Éthiopie, qui va voir ses enfants souvent en lambeaux, souvent vraiment pas bien habillés avec des vieux vêtements. Ils ont un œil en disant « Ah, ces pauvres enfants, ben non, je suis désolé, ni les Nike ni les tablettes qui rendent un enfant heureux. » Et on les voit, ils ont la pêche, ils ont le sourire, ils s'amusent. Et donc bon, après quelques voyages en Afrique, on comprend très bien ça. Cette dichotomie entre l'aspect physique et le bonheur que ces enfants peuvent éprouver à vivre tout simplement et à jouer et à vivre leur vie d'enfant comme ceux en France ne la vivent pas forcément. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tu peux, tu peux avoir le micro.
Comment trouver je trouve modèles, mes sujets.
Alors, c'est random. En fait, pour vous dire un petit peu comment ça se passe, effectivement, concrètement, nous sommes donc trois photographes. Je leur donne des petits cours comme ça, parce que voilà, c'est des photographes amateurs, on va dire. Et nous parcourons, avec un guide, bien sûr, ça c'est obligatoire, deux guides même parfois. Parfois des policiers qui nous demandent de venir avec nous parce qu'ils ont des bakchiches. C'est rigolo, c'est l'Afrique, hein, ça ne coûte pas très cher et puis ça nous fait rire. Et donc, c'est complètement au hasard. On établit un parcours et puis tout d'un coup, je vais vous raconter une anecdote d'une petite fille qui est en couverture du livre qu'on a fait avec Philippe. Cette petite fille, je la rencontre une fois comme ça. Moi, je ne m'occupe pas de l'organisation du voyage. C'est les deux autres personnes qui font le parcours. Je vois un groupe d'enfants et tout de suite, cette petite fille me saute aux yeux. Hein, l'expression est vraiment bien adaptée. Et donc, je la photographie. Elle est merveilleuse. Il y a quelque chose, ben vous, je ne sais pas si vous vous souvenez de la couverture. On dirait une sainte. On dirait une sainte. On la voit. Ah, d'accord. Donc, voilà. Pour moi, elle a un côté christique. Elle m'a vraiment, vraiment, vraiment touché. Il s'avère que 2 ans plus tard, nous retournons en Éthiopie avec les mêmes personnes. Nous sommes quelque part en Éthiopie. Alors, vraisemblablement pas très loin, bien sûr. Une école sort. Les enfants d'une école sortent, pardon. Et un groupe d'enfants, une grappe d'enfants qui s'éparpille. Et là, je demande à mon guide, oh, la petite fille, là, il faut que je la photographie absolument. Ça devient vraiment, là, vraiment une nécessité parce que ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des visages pareils. Et donc, avec mon guide, on la met dans un coin et je commence à parler avec elle. Mon guide lui traduit. Et tout d'un coup, elle se met à pleurer. Et là, elle explique à mon guide que je l'ai photographiée 2 ans auparavant. Et je m'en souvenais pas. Bon, j'en suis désolé. C'est vrai qu'une petite fille en 2 ans, elle change. Et c'était juste magique. C'était absolument magique. Voilà, de retrouver cet enfant 2 ans plus tard et la même envie irrésistible. Alors, j'allais dire, il n'y a pas de bazar. Il y a des visages qui me parlent. C'est une évidence. Ça m'arrive aussi dans la rue parfois, mais bon, là, je suis en Afrique. Autant j'ose en Afrique, autant là, malheureusement, le photographe trimballe derrière lui plein de préjugés. Donc, si je vois un beau visage, c'est compliqué. C'est plus facile que si je suis avec ma femme. Ça aide.
Oui, je voulais ajouter quelque chose comme William a utilisé le mot sainte. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça, c'est une dimension qui m'a beaucoup impressionné, notamment dans ce travail. Et qui me revenait en tête quand tu présentais quelques clichés là sur l'écran. Il y a beaucoup d'images quand même qui me font penser à des images religieuses, moi, vraiment. Alors, en dehors des références à la peinture, qui peut être une peinture religieuse, mais la façon dont ces visages sont saisis, sont mis en scène, les vêtements parfois aussi qui les accompagnent, et puis cette espèce d'intensité aussi qui se dégage des regards, de la lumière. On a l'impression parfois qu'on est, oui, face à une image religieuse. Quand je dis image, c'est presque les images, vous savez, qu'on avait quand ma génération, on était enfant, et il y avait encore toute une industrie d'images religieuses qu'on avait au moment des communions, des baptêmes, des mariages, qu'on glissait dans les missels, et puis toutes celles et ceux qui pouvaient, dans les mauvaises peintures de nos petites églises de Lorraine, figurer la Vierge ou des saintes ou des saints. Moi, je retrouve ça, cette espèce de à la fois de simplicité, d'émerveillement, de grande douceur, de sérénité, de sainteté. Oui, qui se dégage de beaucoup de clichés de ce livre, enfin de ce travail. Et ça m'avait aussi profondément touché. Et ça revenait aussi un petit peu à dire ce que je disais tout à l'heure. Je parlais des origines du monde ou du temps, mais aussi des origines d'une civilisation, puisque, bon, étant né en France et vivant dans cette, enfin, à la fin du précédent millénaire et vivant dans ce nouveau, je suis d'une génération qui a quand même été très marquée par la culture catholique, chrétienne. Et j'ai l'impression aussi, par certains travaux de William, de revenir comme ça à des origines fantasmées du christianisme, au temps des tout débuts. Quoi. Donc c'est aussi une perspective qui était intéressante pour moi.
Et juste une petite réflexion par rapport à ça. Quand on parle de ville et de gens hors du temps, ce que j'essaye de créer aussi quand je rencontre ces personnes, c'est vraiment un cocon hors du temps en même temps. Donc il y a vraiment cette volonté de les soustraire au quotidien. On s'enferme. Et encore une fois, avec cet effet miroir, avec l'intensité que je vais mettre dans le regard que je porte sur eux, et qui par ricochet qu'il me renvoie, on arrive à ces images-là. Donc là, il n'y a pas de truc, encore une fois, je dis aux gens, Photoshop ne pourra jamais vous donner ça. Hein. Photoshop ne veut pas donner une âme à une image qui n'en a pas. Donc voilà, donc là, c'est vraiment, on est dans le relationnel et dans la relation humaine pure.
Et je crois que dans ce festival, on est dans une sorte de réalité magique. Quand on arrive dans le parc... Des personnages bizarres se promènent.
Non, mais c'est très étrange parce que pendant qu'on parlait, alors vous ne voyez pas, mais moi j'ai vu passer deux types avec des hallebardes. Le père Fouras, Merlin l'Enchanteur. Après, c'était une espèce de viking. Enfin, c'est quand même très, très curieux. Quoi.
Une réalité une réalité magique. On essaye de nous vendre une réalité augmentée. Et en fait, là, on est dans une réalité fantasmée avec votre travail, à tous les deux. Et qui est certainement la réalité.
En tout cas, nous vous remercions pour votre présence. Et puis, nous allons mettre fin, donc, je pense, à cette petite rencontre. Et je vous invite, pour ceux qui le désirent, à venir au vernissage qui aura lieu juste en face au MUDAC, donc au Musée d'Art Contemporain et Ancien, à 14h30. Voilà. Et encore une fois, merci.
Merci.